Et c'est le journal de Sébastien Legénie. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, un procès hors norme, celui des attentats du 13 novembre 2015. Et à 3 mois du début des audiences, la justice s'organise avec des dispositifs inédits, notamment une web radio pour permettre à toutes les victimes de suivre le procès. Mais l'idée fait débat, on l'entendra. Comment remobiliser les électeurs après une abstention record au premier tour des régionales? Des associations réfléchissent à moderniser notre système démocratique. À suivre aussi la dernière salve d'insultes de Bolsonaro à destination de la presse brésilienne. Des orages violents dans de nombreuses régions, notamment dans les rues de Reims. C'est le début aujourd'hui du printemps de Bourges.
Et deux invités au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50. Fanny Liattard et Jérémy Trouille. Ce sont les réalisateurs du film Gagarine qui sort en salle demain.
France Inter.
Ce procès, Sébastien, ne débutera qu'en septembre prochain, mais le palais de justice de Paris commence déjà à s'y préparer.
Le procès des attentats du Bataclan et des terrasses parisiennes, les 130 morts du 13 novembre 2015, un procès historique. Les audiences doivent durer du 8 septembre à la fin mars 2022, avec près de 1800 parties civiles, leurs 300 avocats et la vingtaine d'accusés. Il a fallu inventer une salle spéciale sur l'île de la Cité, la plus grande jamais construite. Et puis il a fallu imaginer des outils pour faciliter les audiences, comme cette web radio qui retransmettra donc les débats en léger différé pour les victimes qui ne peuvent pas se déplacer tous les jours. Charlotte Piret.
C'est un procès prévu pour durer 8 mois. Impossible donc pour la majorité des près de 1800 parties civiles de le suivre dans la durée, ni d'ailleurs de tout entrer dans la salle d'audience, d'où l'idée d'une web radio.
On attend beaucoup de ce dispositif.
Jean-Michel Ayat, premier président de la Cour d'appel de Paris.
C'est une solution vraiment novatrice. Et ce qui me paraît important, c'est de ne pas confisquer, je dirais, la tenue du procès aux seules personnes qui auront pu rentrer en salle d'audience.
Mais qui dit dispositif inédit dit aussi inquiétude quant à sa mise en pratique. Maître Hélène Christidis et Frédéric Bibal sont avocats de partie civile.
Écouter un procès sans le voir et seul chez soi, c'est compliqué.
S'il reste complètement passif derrière une retransmission sonore, sans décryptage et sans avertissement sur ce qui se passe réellement à l'audience, ça risque d'être assez éprouvant pour un certain nombre de personnes.
Une mise en garde partagée par les associations de victimes. Arthur Desnouveaux est président de Life for Paris.
On veut absolument qu'il soit très clair de quel est le programme chaque jour et qu'il sache que éventuellement, ce jeudi, les 2 heures d'enregistrement de l'intérieur du Bataclan vont être diffusés in extenso et que donc il faut écouter à ses risques et périls. Au-delà de ça, il y aura un bandeau sur le site de la web radio pour joindre un psychologue en urgence si nécessaire.
Par ailleurs, la diffusion se fera en différé d'une demi-heure pour permettre de l'interrompre en cas d'incident d'audience majeure.
Charlotte Piret, une web radio pour les attentats du 13 novembre. C'est à retrouver sur franceinter.fr.
Il est 7h33 et il n'y aura pas Sébastien de triangulaire en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
L'affiche du second tour des régionales en PACA sera finalement un duel, le RN Thierry Mariani face au LR Renaud Muselier, après le retrait hier de l'écologiste Jean-Laurent Félizia. Reste une inconnue, la participation catastrophique dimanche dernier en PACA comme ailleurs. Un électeur inscrit sur 3 seulement s'est exprimé. Alors comment lutter contre cette abstention? Pour les associations de promotion de la citoyenneté, c'est surtout l'éducation à la démocratie qu'il faut améliorer. Rémi Brocato.
Le réseau d'associations étudiantes AnimaFac n'a pas attendu ce record d'abstention pour agir. Il y a un an et demi, son jury citoyen, composé de 25 jeunes, a formulé 15 propositions. Parmi elles, le vote dès 16 ans au municipal.
Les jeunes se sont dit que tant qu'ils n'auront pas de droit de vote, ils ne pourront pas être concernés.
Autre idée, permettre aux jeunes de participer aux décisions des collectivités. Sarah Bilot est la déléguée générale d'AnimaFac.
On les amène à se sentir concernés, à pouvoir rencontrer des décideurs publics. Tant qu'on ne se sent pas légitime à agir, on ne le fera pas. Et ça, ce n'est pas lié seulement à la catégorie des plus jeunes.
Ce qui pêche, c'est l'éducation à la citoyenneté, estime aussi Elliot James, président de Citizenship. L'association apprend le fonctionnement des institutions aux lycéens notamment.
Il faudrait qu'il y ait une intervention dès le plus jeune âge. La démocratie, c'est faire émerger par le débat une solution. Ce débat, il faut l'apprendre.
Car beaucoup d'électeurs ne se sentent pas concernés. Alors Alban Gentil, cofondateur de Votez-vous, a lancé en 2014 une application pour comparer les programmes électoraux. Mais l'association n'a pas pu la mettre à jour cette année.
On ne sait pas comment refaire ce qu'on a fait les années précédentes, pour la présidentielle l'année prochaine, parce que les fonds pour soutenir financièrement et de façon politiquement neutre des associations comme les nôtres manquent en France.
Pour lui, il faudrait s'inspirer de l'Allemagne et de son agence publique fédérale pour l'éducation civique.
Rémi Brancato, un second tour avec, on l'espère cette fois, des professions de foi dans les boîtes aux lettres pour tout le monde. Les deux prestataires chargés de l'acheminement de la propagande électorale, Adrexo et La Poste, très critiqués depuis les bugs de ce week-end sur quelques milliers de bulletins, ont promis de renforcer leur dispositif. Pas un mot en revanche du côté de la présidence sur les mauvais résultats des macronistes ce week-end. Le chef de l'État, lui, a préféré surfer sur le retour à la vie normale, réouverture des boîtes de nuit le 9 juillet prochain, inauguration la nouvelle Samaritaine et fête de la musique hier dans les palais de l'Élysée. On y reviendra dans le journal de 8h. Il faut dire que les chiffres de l'épidémie continuent de baisser en France. 1655 patients en réanimation hier. Changement d'ambiance en revanche au Brésil, toujours plombé par la crise sanitaire. Le pays a passé la barre symbolique des 500 000 morts. Mais le président Bolsonaro n'en a toujours que faire. Son ennemi, ce sont les journalistes plus que le virus. Correspondance de Sarah Cozzolino.
C'est comme si le Brésil avait perdu l'équivalent du nombre d'habitants de Florianopolis. Et même si le ministre de la Santé, Marcelo Queiroga, a annoncé ce lundi une anticipation du calendrier de vaccination, on est encore loin du compte. Moins de 12% de la population brésilienne a reçu ses deux doses de vaccin et entre 4 et 5 millions ont déjà du retard dans l'application de leur seconde injection. Le président brésilien, lui, fait encore l'apologie de la chloroquine.
Je suis peut-être l'un des seuls chefs d'État du monde qui a eu le courage de parler de traitement précoce. Je suis la preuve vivante, comme vous le savez, que l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, marche pour minimiser les effets du Covid.
Interrogé par une journaliste sur le fait qu'il était arrivé sans masque, Jair Bolsonaro s'emporte et enlève à nouveau son masque.
Je viens comme je veux, où je veux, ok? Je m'occupe de ma vie. Je suis sans masque, oui. Vous êtes contente? Globo, vous êtes une presse de merde. Vous racontez des saloperies. Taisez-vous. Vous êtes des enfoirés de journalistes.
Jair Bolsonaro est un habitué des insultes à la presse, mais aussi des rassemblements sans masque. La semaine dernière, il a écopé d'une amende pour avoir défilé démasqué lors d'un rassemblement. Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino pour France Inter.
On revient en France avec cette crise de la filière bois qui ne peut plus acheter de chêne produit dans l'Hexagone. Et pour cause, ce chêne 100% made in France est presque intégralement vendu aux Chinois. Les professionnels appellent à l'aide, pétition lancée par près de 9000 entreprises du secteur pour demander à l'État de les protéger. Thibault Lefèvre.
Chaque année, la société Centre Bois Massif produit 130 000 mètres carrés de parquet pour un chiffre d'affaires de près de 10 millions d'euros. Une fabrication exclusivement à base de chêne achetée et transformée dans des scieries en France. Mais depuis quelques semaines, l'approvisionnement est de plus en plus compliqué. Samuel Deschamps est le président de l'entreprise.
C'est aberrant. Vous avez des forêts privées où on voit des bois préparés pour partir en conteneur. Et à côté, vous avez nos fournisseurs scieurs locaux qui nous disent « je ne peux plus acheter de matière ». Là, c'est vraiment un pan entier de l'économie qui peut s'effondrer.
Car les entreprises chinoises achètent le chêne en moyenne 15% plus cher que le prix du marché, avec des pratiques douteuses, selon Nicolas Douzin-Didier, le délégué général de la Fédération nationale du bois.
La Chine a interdit toute récolte sur son territoire pour 99 ans et donc vient piller la forêt de ceux qui en ont. C'est donc un système qui est complètement organisé par le gouvernement chinois, qui ne relève absolument pas du commerce international classique.
90% des scieries de chêne françaises manquent de bois pour la fin de l'année. Les professionnels demandent un moratoire, comme en Turquie, au Japon ou en Russie, pour limiter les exportations vers la Chine.
Thibault Lefèvre. En bref, des nouvelles d'Europe 1. La radio ne deviendra pas une radio d'opinion. C'est Arnaud Lagardère qui l'assure ce matin dans une interview au Figaro. Europe 1 secoué depuis la semaine dernière par une grève inédite de ces journalistes inquiets du rapprochement avec le groupe Bolloré. À Bordeaux, au lendemain de l'effondrement de deux bâtiments, 3 blessés, dont un grave, la mairie va lancer un audit dans les immeubles de Bordeaux afin d'y détecter d'éventuels signes de vétusté. Dans la ville de Reims, ce sont les orages là qui ont frappé durement la ville. Des inondations près du centre pour la troisième fois en deux semaines. Anne-Laure Labalette de France Bleu Champagne.
Des voitures avec les
les moteurs noyés, des passants trempés jusqu'aux genoux qui tentent d'avancer contre le courant, des poubelles qui flottent et les plaques d'égout qui se soulèvent sous la force de l'eau. La rue Jean Jaurès, près du centre-ville de Reims, s'est transformée pour la troisième fois en moins de trois semaines en piscine à ciel ouvert. Hier soir vers 22h, les pompiers comptaient déjà une cinquantaine d'interventions dans le secteur. Quand la pluie s'est enfin calmée, le maire de Reims, Arnaud Robinet, s'est rendu sur place pour rencontrer les commerçants sinistrés et excédés car ils se sentent impuissants face à la montée des eaux. Le maire de Reims organisera d'ailleurs une rencontre en mairie demain pour échanger avec ses riverains. Début juin, lors du premier épisode d'inondation, Arnaud Robinet avait demandé la reconnaissance en état de catastrophe naturelle. Des travaux devraient d'ailleurs commencer en fin d'année afin de remplacer certaines canalisations qui datent de la Seconde Guerre mondiale et qui ne sont plus en capacité d'absorber les fortes pluies.
Anne-Laure, la balette de France Bleu Champagne. Ajoutons qu'à Beauvais, dans l'Oise, une personne est tombée dans la rivière du terrain. Des recherches sont en cours. Un mot de football avec le 11 tricolore déjà qualifié pour les huitièmes de finale de l'Euro de foot. Conséquence mathématique des matchs d'hier soir. Les Bleus qui se préparent malgré tout à jouer le Portugal demain. Match décisif pour finir premier de leur groupe. C'est encore mieux.
Et on termine avec le premier festival post-Covid.
J'ai nommé le festival de Bourges qui débute aujourd'hui, se poursuit jusqu'à dimanche en version assise et masquée, Mathieu Culeron.
Après de nombreuses incertitudes, le printemps est de retour en été. Une édition qui sonne la réouverture des festivals pour les professionnels comme pour les artistes avec un protocole allégé, ce qui satisfait Boris Vedel, le directeur du festival.
Pour l'instant, tout ce qui arrive, c'est pour nous, c'est que du bonus en plus. Le lever du couvre-feu est extra parce que on avait une édition qui allait être peut-être un peu contrainte avec cette peur du gendarme en sortie de salle. Donc là, on l'a plus et on sait surtout ça va faire vivre toute notre ville. Et puis surtout à Bourges, la chance qu'on a, c'est qu'on n'a pas de passe sanitaire puisque nos salles sont à moins de 1000 personnes. C'est voilà, ce sera une liberté totale en tout cas pour arriver dans les salles.
Ce soir, c'est Jean-Louis Aubert qui sera la tête d'affiche du printemps, l'ancien chanteur de téléphone qui se souvient de sa première édition à Bourges.
La première fois, ouais. J'ai adoré Charles Aznavour qui m'a donné des leçons. Quelquefois, on s'est retrouvé dans des endroits aussi petits que des cabinets. Et il m'a dit cette énorme phrase qui était « Toute victoire remportée sur ton passé le rend plus fort ». C'est très important ces moments oubliés qui nous paraissaient normaux avant.
Le printemps de Bourges qui accueillera les états généraux des festivals lundi prochain et qui rendra hommage à Prince et au groupe Portishead.
Voilà le début du printemps de Bourges avec au programme notamment Jean-Louis Aubert, Alain Souchon, Catherine Ringer, Philippe Catherine, Pomme et encore bien d'autres. Tout cela sans passe sanitaire, Nicolas.
Merci Sébastien Legénie. L'édito politique à suivre.